Les rendez-vous santé d'Africa numéro 1, la prévention, en partenariat avec Santé publique France.
Pourquoi parler ce matin des hépatites B et C ? Parce que ce sont des maladies qui sont très fréquentes et qui peuvent devenir très graves, qui peuvent se transmettre, que l'on peut dépister pourtant et que l'on sait soigner. Pourquoi parler ce matin des hépatites B et C ? Parce qu'on estime qu'en France, 150 000 personnes ignorent être porteuses du virus de l'hépatite B et 75 000 de celui de l'hépatite C. Dépister l'hépatite B, c'est permettre non seulement la prise en charge des personnes contaminées, mais aussi protéger leur entourage grâce à la vaccination. Dépister l'hépatite C, c'est offrir la possibilité d'une guérison entre 8 et 12 semaines de traitement. On en parle avec nos invités, avec nous sur le plateau de la radio africaine. Christophe, merci d'être avec nous. Christophe, vous êtes écoutant sur la ligne de SIDA Info Service. Et au téléphone, c'est le docteur Nicolas Vignier. Merci d'être avec nous. Docteur, vous êtes praticien hospitalier en maladies infectieuses et tropicales. Vous êtes responsable du Cégide de Melun. Merci à tous les deux de nous rejoindre ce matin pour parler des hépatites, hépatites B et C, et d'insister sur l'importance du dépistage. Alors oui, on a commencé avec des chiffres et ils sont là. 150 000 personnes ignorent être porteuses du virus de l'hépatite B et 75 000 personnes ignorent être porteuses de l'hépatite C en France. Alors, est-ce que ce sont des chiffres qui sont considérables ? Que vous disent ces chiffres ? D'abord, on va commencer avec vous, docteur Nicolas Vignier. Bonjour.
Bah oui, c'est des chiffres qui sont considérables parce que si on compare ça par exemple à une infection par le virus du VIH, c'est seulement un peu plus de 20 000 personnes qui ignorent leur séropositivité. Donc quand on dit 150 000, c'est beaucoup. Et pour l'hépatite C, 75 000, c'est beaucoup aussi. Donc du coup, ça signifie qu'il y a un enjeu de dépistage qui est très important. Et qu'il y a beaucoup de personnes qui sont porteurs de ces virus sans le savoir. Ça, c'est en grande partie lié au fait que c'est des maladies qui sont longtemps asymptomatiques. Donc, on peut tout à fait être porteur, même depuis l'enfance, et ignorer être porteur du virus de l'hépatite B, de l'hépatite C. Et donc, la seule manière de le savoir, c'est le dépistage.
Et pourtant, le corps médical recommande à tout le monde de pratiquer au moins une fois dans sa vie le dépistage des virus de l'hépatite B et C. Et surtout à des personnes qui présentent un risque particulier. Alors, quelles sont ces personnes qui sont visées ? À qui conseille-t-on de se faire dépister au moins une fois dans la vie, Christophe ?
Le dépistage une fois dans la vie, c'est, je crois que c'est à peu près pour tout le monde, toutes les personnes qui ont une sexualité. Après, pour l'hépatite C, on sait que ça concerne davantage des personnes qui se sont exposées à du sang, donc c'est pas forcément tout le monde, mais peut-être qu'une fois dans la vie, quand même, de vérifier que tout va bien du côté de l'hépatite C, ça peut être important également.
Alors, parlons des modes de transmission, d'abord pour l'hépatite B. Alors, docteur, trop de personnes pensent que la transmission n'est que sexuelle, alors que ce n'est pas le cas. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots les modes de transmission de l'hépatite B, s'il vous plaît ?
Oui. Alors, c'est vrai qu'on dit beaucoup dans les actions de prévention en France que l'hépatite B est un virus sexuellement transmissible. Ce qui d'ailleurs reflète une partie de la réalité, parce que la plupart des personnes qui s'infectent sur le territoire français attrapent ce virus à l'occasion d'un rapport sexuel non protégé.
Oui.
Mais comme on est sur Africa numéro 1 et que beaucoup de personnes sont nées en Afrique subsaharienne, c'est pas du tout la réalité de l'Afrique subsaharienne, parce qu'il y a d'autres modes de transmission de l'hépatite B qui prévalent au sud, et en particulier la transmission de la mère à l'enfant,
oui,
au moment de l'accouchement, mais aussi la transmission horizontale pendant l'enfance, à l'occasion d'exposition à du sang ou à des fluides corporels. Et donc la grande majorité des personnes qui sont nées en Afrique subsaharienne et qui vivent aujourd'hui avec l'hépatite B ont été exposées soit à la naissance, soit dans l'enfance. Et donc leur infection n'a rien à voir avec leur sexualité d'aujourd'hui.
Alors,
donc c'est vrai qu'il faut bien faire la différence.
Alors justement, à Christophe, les complications de l'hépatite B peuvent mettre de nombreuses années, entre 20 et 30 ans dans certains cas, à se développer. C'est pour ça que c'est une maladie qui est silencieuse et que beaucoup de personnes ne connaissent pas leur sérologie.
Oui, nous on se rend compte sur nos lignes que beaucoup de personnes réagissent et s'inquiètent à partir du moment où elles ont des symptômes ou des manifestations. Et là, en l'occurrence, pour l'hépatite B, il faut des années, des années, des années. Il faut effectivement parfois 20 ans avant que des personnes commencent à avoir des manifestations. Et voilà. Alors qu'on aurait pu en intervenant très en amont, dès le départ, enfin en tous les cas très rapidement, ouais. on aurait pu éviter cette évolution et donc éviter toutes les manifestations de l'infection.
Un mot à Nicolas Vignier ?
Oui, bah, c'est tout à fait ça, je suis d'accord. Donc encore une fois, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une maladie qui est très très longtemps asymptomatique, mais qui n'en est pas moins grave dans les formes les plus actives, parce que en général, quand les symptômes arrivent, bah, c'est déjà à un stade où le foie est très malade, hein, ce qu'on appelle la cirrhose, ou parfois pire, le cancer du foie.
Oui.
Et donc, la meilleure prévention, mis à part la vaccination, c'est bien sûr le dépistage et le diagnostic précoce pour pouvoir bénéficier d'une prise en charge adaptée.
Alors, dans le monde, une personne sur trois était en contact avec le virus de l'hépatite B ou de l'hépatite C. Comment ça s'explique, Nicolas Vignier ?
Eh ben, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire, déjà, c'est un virus qui est très présent. Alors, si on prend l'exemple de l'Afrique subsaharienne plus particulièrement, c'est même plus qu'un sur trois. Hein, c'est plutôt 2 sur 3 qui ont été exposés au virus de l'hépatite B dans leur vie. Et en fait, comme le virus est très fréquent, bah, les chances de le rencontrer à la naissance ou dans l'enfance sont importantes. Et au fil de l'enfance et de l'âge adulte, on arrive à un taux d'exposition qui est très important. Alors heureusement, l'ensemble des personnes qui rencontrent le virus ne vont pas faire une hépatite B chronique.
Oui.
Certaines vont réussir à éliminer le virus au moment de l'exposition. Mais une partie quand même non négligeable va rester porteur et pour les personnes qui sont nées en Afrique subsaharienne qui vivent en France, c'est 5% d'entre elles qui sont porteuses de manière chronique du virus de l'hépatite B et qui ont donc un risque d'hépatite B chronique avec après des années d'évolution les complications qu'on évoquait juste avant, la fibrose, la cirrhose et le cancer du foie.
Alors pour l'hépatite C, la transmission est principalement sanguine, Christophe?
Oui, absolument. Il est assez rare ça peut arriver s'il y a des contacts sexuels avec du sang, mais en général, effectivement, la transmission est plutôt par voie sanguine.
Alors, d'autres modes de transmission de l'hépatite B, à part la transmission sanguine ?
Mais la transmission par les rapports sexuels,
ouais,
bien sûr.
Ouais.
Donc les rapports sexuels non protégés, avec un risque de transmission qui est assez élevé lors d'un rapport de pénétration non protégé, effectivement.
Un mot, peut-être, Nicolas Vignier ?
Oui, donc il faut bien, là on parle des deux, hépatite B, hépatite C, mais en fait c'est deux maladies très différentes dans leur mode de transmission, justement.
Oui.
Donc l'hépatite B, en effet, c'est vraiment mère-enfant, enfance dans les pays d'endémie et les rapports sexuels en France, alors que l'hépatite C, c'est plutôt une maladie transmise par le sang, donc on voit dans des contextes déjà plus rares et plus particuliers que sont la transfusion sanguine à l'époque, avant qu'on dépiste le sang, mais aussi les partages de seringues, en particulier pour les usages de drogue intraveineux,
oui.
Les professionnels de santé, en particulier les infirmiers qui peuvent se piquer avec une aiguille, et puis parfois dans des pays où l'hygiène n'est pas suffisamment respectée dans les structures de santé, il peut aussi y avoir des transmissions nosocomiales à l'occasion d'une perfusion, d'une injection intramusculaire, etc. Donc c'est tout ça qui expose à l'hépatite C. Et c'est d'ailleurs un petit peu l'expérience de l'Afrique, c'est que les pays où la prévalence d'hépatite C est importante, c'est des pays où il y a eu des problèmes de respect des règles d'hygiène par rapport aux seringues, aux aiguilles et à tout ce qui est piquant tranchant,
oui.
Et où malheureusement les gens ont été infectés à l'occasion de soins dans le milieu hospitalier.
Alors, concernant le dépistage, il consiste à faire une prise de sang. C'est le cas pour l'hépatite B, mais aussi pour l'hépatite C. Christophe ?
Oui, dans les deux cas, c'est une prise de sang qui permet de mettre en évidence cette infection. Prise de sang qui peut se faire tout simplement dans un laboratoire avec une prescription d'un médecin,
ouais.
Ou dans un centre de dépistage, comme celui de Melun, par exemple. Enfin, voilà, dans les centres de dépistage, on peut également, voilà, dans les Cégides, vérifier assez simplement et facilement ce genre de choses.
Et au bout de combien de temps on a le résultat ?
Alors, ça dépend comment on procède. Dans les Cégides, il faut quelques jours. Enfin, c'est moins d'une semaine en général. Ça dépend de l'organisation des Cégides. Dans les laboratoires, c'est, oui, voilà, pendant 1-2 jours, 1 ou 2 journées, 24 à 48 heures, en général, on obtient le résultat.
Alors, contrairement à l'hépatite C, l'hépatite B ne guérit pas, mais on peut arrêter la multiplication du virus avec un traitement. On en parle, Nicolas Vignier ?
Oui, alors en effet, donc d'où l'importance d'être dépisté, diagnostiqué. Donc une fois qu'on l'a diagnostiqué, on évalue l'activité de la maladie en faisant une prise de sang, une échographie du foie et une évaluation de la fibrose du foie, de la dureté du foie. Et là, on est du coup, il va y avoir deux situations. Soit on va être face à quelqu'un qui est porteur du virus, mais un virus qui dort et qui n'est pas très agressif. Et dans ce cas-là, on va simplement respecter la présence du virus et surveiller tous les ans qu'il ne se réveille pas. Soit à l'inverse, on va tomber sur une situation où le virus est plus agressif, se multiplie beaucoup, entraîne une inflammation dans le foie, oui, qui elle-même va abîmer le foie. Et dans ce cas-là, il est très important de stopper la multiplication du virus. Et on utilise à cette fin des antiviraux, qui sont donc des médicaments sous forme de comprimés. En général, c'est un comprimé à prendre tous les jours au long cours. Donc c'est comme une maladie chronique, comme par exemple l'hypertension ou le diabète. Les personnes qu'on met sous traitement doivent prendre chaque jour leur comprimé et ne pas l'arrêter. Et ça les protège, si on intervient suffisamment tôt, de l'évolution vers la fibrose, la cirrhose et le cancer du foie.
Alors pour l'hépatite C, il existe un traitement efficace dans plus de 9 cas sur 10.
Alors oui, pour l'hépatite C, c'est encore plus satisfaisant que pour l'hépatite B, parce qu'on a depuis maintenant 4-5 ans des médicaments qui sont aussi sous forme de comprimés, qui, oui, sont aussi des antiviraux, mais qui, à la différence de l'hépatite B, permettent de guérir définitivement, c'est-à-dire de tuer et d'éradiquer le virus de l'organisme, chose qu'on n'arrive pas à faire avec l'hépatite B. Et donc une fois que le traitement il dure 8 à 12 semaines, donc voilà, maximum 3 mois, oui, c'est un comprimé qu'on prend tous les jours, c'est bien toléré, et ça c'est important de le redire, parce que les traitements qu'on utilisait avant avaient beaucoup d'effets indésirables. Donc pour les personnes qui ont connu quelqu'un qui avait une hépatite C, il y a une réputation très négative du traitement de l'hépatite C, donc c'est important d'insister sur le fait que ça n'est plus vrai aujourd'hui, les, ouais, traitements sont très bien tolérés, donc il ne faut pas avoir peur de se soigner. Et donc la guérison survient dans plus de 90% des cas, comme vous l'avez dit, ce qui est très satisfaisant, bien sûr. Donc il y a vraiment eu une révolution dans la prise en charge de l'hépatite C là, au cours des dernières années, et on a la satisfaction de pouvoir guérir un grand nombre de patients.
Alors pour l'hépatite B, on y revient, et c'est important quand même de rappeler qu'il y a un vaccin, même si on ne cesse de le faire sur cette antenne, donc n'hésitez pas également à vous faire vacciner contre l'hépatite B. Christophe ?
Oui.
Allez-y, Christophe.
Oui, bien sûr. On a la chance d'avoir pour l'hépatite B, un vaccin. Donc, c'est vraiment très important d'insister sur cette possibilité, sur le fait que grâce à ce vaccin, on évite évidemment l'infection et tout le reste. Donc, je crois que c'est vraiment l'idéal. On n'a malheureusement pas encore de vaccin pour l'hépatite C.
Où en est la recherche, justement ?
C'est-à-dire que, étant donné qu'on a aujourd'hui des traitements pour l'hépatite C, c'est vrai que la recherche du vaccin, des traitements qui permettent de guérir, hein, pas seulement de stopper l'évolution comme pour l'hépatite B. Donc c'est vrai que la recherche est peut-être moins intensive qu'elle n'a pu l'être à un moment donné, mais, ouais, on espère quand même qu'un jour on pourra bénéficier d'un vaccin pour l'hépatite C, et surtout que les personnes se feront vacciner, bien sûr.
Alors au téléphone, il y a un auditeur qui voulait rester anonyme, alors il dit... il est soigné pour l'hépatite B. Comment faire pour le dire à sa famille au pays ? Première question. Comment rencontrer une femme, lui parler de son hépatite B ? Elle risque de ne pas vouloir de moi. C'est très difficile pour moi de rencontrer des femmes. Je pense que c'est des cas que vous devez souvent rencontrer, docteur Nicolas Vignier. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à cet, oui, auditeur ?
Déjà qu'il n'est pas le seul dans cette situation-là. Parce qu'on a, quand on interroge un petit peu les personnes, il y a en effet à peu près un tiers d'entre elles qui n'ont pas parlé de leur hépatite B, soit à leur famille, soit éventuellement aux personnes avec qui ils aimeraient se mettre en couple. Cependant, celles qui en ont parlé, ça s'est en général plutôt bien passé, en tout cas beaucoup plus facilement que l'expérience qu'on a dans le VIH, où il y a une forte stigmatisation. Et donc l'hépatite B, comme c'est une maladie qui est plus méconnue, elle fait moins peur. Oui. Donc en général, quand c'est annoncé, que c'est accompagné d'explications par le le personnel soignant qui rassure un peu l'entourage sur le fait que c'est une maladie qui est pas contagieuse pour l'entourage, ça se passe bien. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à l'encourager à en parler quand il se sentira prêt, à demander aux soignants qui l'accompagnent de l'aider dans cette démarche. Et par rapport à une éventuelle mise en couple, et ben en fait, c'est quand même beaucoup plus simple que pour le VIH. Parce qu'il suffit que sa compagne ait fait un dépistage pour vérifier qu'elle est bien négative et ait été vaccinée correctement contre l'hépatite B pour qu'elle soit protégée définitivement contre ce virus, que le vaccin est très efficace. Et donc, il n'y a aucune raison ensuite de se limiter dans sa vie sentimentale par rapport à l'hépatite B à partir du moment où sa compagne ou son compagnon est correctement vacciné.
Et même s'il décide d'avoir un enfant...
Eh ben oui, parce que comme sa compagne sera vaccinée, les rapports n'ont pas l'obligation d'être protégés. Donc s'ils ont tous les deux fait le dépistage des IST, qu'il n'y a que l'hépatite B et que madame est vaccinée, ils peuvent avoir des rapports sans préservatif et envisager une paternité, une maternité sans aucune restriction.
Un mot, Christophe?
Oui, peut-être préciser que dans le cas inverse, c'est-à-dire où c'est la femme qui est porteuse du virus de l'hépatite B, on a aujourd'hui tous les moyens à l'accouchement, on donne des traitements à l'enfant pour éviter l'infection, on le vaccine et l'enfant ne sera tout à fait indemne et ne sera pas porteur du virus de l'hépatite B. Donc même pour une femme qui est porteuse du virus de l'hépatite B, elle peut tout à fait envisager non seulement d'avoir des rapports sexuels non protégés avec un homme qui est vacciné, tout simplement, mais également d'avoir un enfant auquel elle ne transmettra pas son virus.
Alors pourquoi c'est important de pousser les personnes à aller se faire dépister et à savoir leur statut sérologique, Christophe?
Et ben justement pour bénéficier de tout ce qui est à disposition, des traitements dont nous venons de parler. Tous ces traitements, je pense à l'hépatite C ou même pour l'hépatite B, sont vraiment extrêmement performants aujourd'hui. On espère qu'un jour on obtiendra les mêmes traitements qui permettront de guérir pour l'hépatite B également. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas malheureusement. Mais on a des traitements qui permettent de stopper l'évolution. Tout ça, ça n'est disponible qu'à la condition que les personnes soient dépistées. Donc la condition, c'est celle-là.
Alors je vous pose la même question, Nicolas Vignier.
Oui, donc reposez-moi la question, s'il vous plaît.
Alors pourquoi c'est important de pousser les personnes à aller se faire dépister, en savoir un petit peu plus sur leur statut?
Oui, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que comme c'est une maladie qui évolue à bas bruit, si on fait rien, on peut se retrouver 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard avec un foie très malade et donc avoir des problèmes de santé. Donc mieux vaut le savoir tôt. Il existe des solutions qui permettent de rester en bonne santé avec l'hépatite B et de guérir avec l'hépatite C. Et donc il y a aucune raison de ne pas aller au dépistage, d'avoir peur. Ça permet aussi de protéger son entourage, de vérifier le statut vaccinal. Donc le dépistage est extrêmement important et tout le monde devrait avoir fait au moins un dépistage en effet dans sa vie.
Alors, où faire le dépistage? On en parlait tout à l'heure, hein, on peut se rendre dans un Cégide, il y en a un petit peu partout en région parisienne, donc n'hésitez pas à aller sur internet pour savoir l'adresse du Cégide le plus proche de chez vous, mais aussi avec une ordonnance du docteur directement dans un laboratoire, docteur.
Oui, tout à fait. Donc les Cégides, hein, c'est les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, dans lesquels donc ils sont des centres vraiment le personnel est habitué, donc on peut y aller sans crainte. On peut même faire de manière anonyme si on le souhaite le test. Et on fait en général un bilan complet qui comprend le dépistage du VIH, de l'hépatite B, de l'hépatite C et des autres IST comme le chlamydia et le gonocoque. Et tout ça, c'est gratuit. Après, si on préfère voir ça avec son médecin traitant, il suffit d'aller le consulter, il va établir une ordonnance. Avec cette ordonnance, ça sera fait dans un laboratoire de ville. Avec donc, si on a une mutuelle, c'est pris en charge complètement. Si on n'a pas de mutuelle, c'est pris en charge à 65% par la sécurité sociale. Et bientôt, il y aura aussi des tests rapides qui permettront.
Les autotests ou les tests rapides? Les autotests?
Alors, les autotests, ça n'existe que pour le VIH. D'accord. Ça n'existe pas pour les hépatites B et C. Ouais. Par contre, les tests rapides faits par des acteurs formés, et en particulier les acteurs associatifs, comme les associations Aide, Africa Avenir, etc. Ouais. Ça existe pour l'hépatite C, l'hépatite B. Donc c'est déjà disponible un peu partout pour l'hépatite C. C'est en train d'arriver pour l'hépatite B. Donc dans les incessamment sous peu, ça sera aussi disponible dans les offres de dépistage dites communautaires, notamment dans les camions, salons de coiffure, etc.
Alors à quel moment de la vie vous conseillez aux auditeurs d'aller se faire dépister ? Alors vous avez, je sais que vous allez dire régulièrement dès qu'on a un doute.
Déjà une première fois, si on l'a jamais fait, et même si on n'a pas pris des risques sexuels, parce qu'on l'a redit avant que ce n'était pas forcément lié à la sexualité. Et pour quelqu'un qui aurait... Et faut aussi le faire chez les enfants qui arrivent en France, qui sont nés dans les pays à risque, à la naissance ou dans l'enfance.
Oui.
Donc même si c'est un enfant qui a 10 ans, un jeune, un ado, etc., qui n'a pas encore une vie sexuelle, il est concerné par le dépistage. Et une fois qu'on a déjà fait un dépistage, bah, tout dépend du statut par rapport à la vaccination. Si on a déjà fait un dépistage, que c'est négatif, qu'on a été vacciné correctement ou qu'on est protégé par des anticorps, il n'y a pas besoin de refaire de test. Par contre, si on a fait une fois, c'est négatif, mais qu'on a oublié de faire la vaccination et qu'on a pris un risque sexuel, c'est-à-dire qu'on a eu un rapport sexuel non protégé, bah là, il faut refaire le test régulièrement. Hein. Donc au moins une fois par an pour les personnes qui prennent des risques.
Plus d'infos sur Internet, hein, le site Hépatite Info Service, mais aussi le numéro vert 0800 845 800, appel confidentiel, anonyme et gratuit. Alors on va faire la petite conclusion de l'émission. Qu'est-ce qu'on doit retenir, Christophe, de tout ce qu'on a dit ce matin ?
Eh bien, on doit retenir, me semble-t-il, qu'il y a des traitements extrêmement efficaces maintenant pour l'hépatite C, efficaces également pour l'hépatite B, et que voilà, ces infections, si elles peuvent avoir des conséquences graves, il est tout à fait possible aujourd'hui de les éviter.
Oui.
La condition, évidemment, c'est de se faire dépister.
Un dernier mot, Nicolas Vignier, que vous voulez dire pour conclure ?
Oui, donc l'importance du dépistage et de la vaccination. On s'est pas arrêté beaucoup sur la vaccination, mais c'est une vaccination, je le rappelle, qui est très bien tolérée.
Oui.
Et donc si après le dépistage, le médecin vous la propose, il faut l'accepter sans hésiter. Ça nécessite 3 injections qu'on fait sur 6 mois. Et après, on est protégé pour toute la vie.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation pour parler des hépatites B et C et de l'importance du dépistage ce matin sur l'antenne d'Africa numéro 1. Merci à tous les deux. On vous dit à très bientôt sur l'antenne d'Africa numéro 1. La suite avec un peu de musique en attendant la suite des programmes de la radio africaine.
Au revoir.
Merci beaucoup, monsieur Nicolas Vigny. À bientôt.
À bientôt. Au revoir.